Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui à l'émission, une nouvelle radio communautaire pourrait voir le jour à l'île du Prince-Édouard, la communauté acadienne appelée en renfort.
Plus souvent pas, il y avait ce débat-là. Ben, est-ce que la radio devrait être à Charlottetown, devrait être dans la région évangéline, etc. Mais maintenant, ce qu'on s'aperçoit avec la technologie, ça a tellement amélioré que où est-ce que tu mets la tour n'a pas tellement d'importance.
L'été, ça se passe en plein air. Pour nous, les Nordiques, privés de chaleur plusieurs mois par année. Les festivals pleuvent, on célèbre le miel, la francophonie, la Saint-Jean et l'été à travers le pays, comme à la 39e édition du Festival de la chanson de Tadoussac.
On est très très content de la fin de semaine, le public, les artistes, tout le monde. Je pense qu'elle est ressortie, elle est repartie Tadoussac avec un sourire aux lèvres.
Et puis on revient sur la fête des pères du 18 juin dernier. Marie Hillès part à la rencontre de quatre d'entre eux pour savoir comment ils la vivent.
Je trouve que ça donne un sens à ma vie un peu. J'ai hâte de les revoir après la journée de garderie, de savoir ce qu'ils ont fait. Puis tu sais, je sais pas, ça m'amène juste une certaine sérénité, de les avoir dans mes bras, ou tu sais, comme quand on s'assoit tous sur le sofa puis qu'on regarde la télé, tu sais, c'est quelque chose de difficile à expliquer.
Ceci est plus encore à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous, ou bien on se lance à l'eau dans l'est du pays, ou bien des choses se trament à l'île du Prince-Édouard, apprend-on de Daniel Aucoin en Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard où l'on songe à relancer le projet d'une radio communautaire francophone, un projet qui aura besoin de l'appui et de la générosité de la communauté acadienne et francophone et des différents paliers de gouvernement, sans doute, mais surtout de la force de persuasion de l'Alliance pour le développement durable de l'île du Prince-Édouard, qui en évalue actuellement la faisabilité. L'Alliance qui doit, au cours des prochaines semaines et dès le 29 juin, tâter le pouls de la population, des gens d'affaires et des organismes communautaires de l'île. L'Alliance qui estime que cette future radio communautaire pourrait servir d'outil de développement linguistique, culturel et social pour les citoyens de l'île. Notre journaliste Daniel Aucoin en discute avec Paul Galland, intervenant culturel.
Il y a plusieurs raisons. Nous autres, on a créé un petit organisme qui est appelé l'Alliance pour le développement durable de l'île. Puis, on faisait des forums assez réguliers. Puis, de ces forums-là, on discutait d'idées qui seraient bonnes d'entreprendre, que ça soit sur la notion de d'hébergement ou renouveau de la salle de Mont-Carmel, etc. Puis une des idées qui est revenue sur le tapis, puis c'était bien sur la radio, puis tu l'as bien dit, oui, ça fait l'idée était même datée de quelques années, même quand j'ai déménagé moi à Chétican, j'ai passé presque 28 ans à Chétican, puis là, ça fait 5 ans que je suis de retour. Puis c'est une idée que moi j'étais pas là pour tout savoir qu'est-ce qui était, pourquoi ça n'a pas été de l'avant, mais plus souvent que pas, il y avait ce débat-là. Ben, est-ce que la radio devrait être à Charlottetown, devrait être dans la région évangéline, etc. Parce qu'il y a quand même 6 communautés distinctes à l'île. Mais maintenant, ce qu'on s'aperçoit avec la technologie, ça a tellement amélioré que où est-ce que tu mets la tour n'a pas tellement d'importance.
Selon les promoteurs du projet, il est important que la population acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard puisse se parler, s'entendre et se connaître. Paul Galland souligne qu'une radio communautaire permanente servirait à promouvoir le développement culturel et économique de l'île du Prince-Édouard.
Ben, tu sais, comme on sait, l'île est une des seules, je pense qu'il y a peut-être Terre-Neuve, un des territoires, qui n'a pas de radio communautaire. On dit qu'il y en a une dizaine au Nouveau-Brunswick, il y en a 4 autres, bien sûr, en Nouvelle-Écosse. Et puis, pour nous autres, tu sais, la population-là de l'île, tu sais, serait le double ou trois fois la population de Chétican ou de d'autres communautés qui l'ont fait travailler, puis l'assimilation fait ses ravages. C'est même si on a 6 écoles, ça ne veut pas dire que c'est tout gagné. Ça fait que n'importe quoi qu'on pourrait faire pour l'idée de la construction identitaire, puis moi, j'ai peut-être biaisé parce que j'ai vu avec la radio CKJM pendant toutes ces années-là, quand je sais le bien que ça fait à la communauté, pas juste pour les artistes. Daniel, mais tu sais, ça vient appuyer le secteur touristique, l'été, tu sais, puis la communauté.
La population, les gens d'affaires et les organismes du milieu sont invités à partager leurs opinions face au projet d'une radio communautaire permanente pour l'île du Prince-Édouard. En appuyant l'idée du projet, les Acadiens et les francophones de l'île pourraient éventuellement se doter d'un outil d'information, de divertissement et de développement à l'image de leur région. Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On quitte les Maritimes pour se rendre au Manitoba où notre journaliste Iman El-Hadji a rencontré l'équipe de Saint-Boniface célèbre, un événement communautaire qui dit servir de pont entre la communauté anglophone et francophone de la région de Saint-Boniface au Manitoba. L'événement, qui se tient du 22 au 25 juin, met en lumière le fait français hors Québec. Fanny Lin, agente de communication marketing au Centre culturel franco-manitobain, au micro d'Iman El-Hadji.
Comment allez-vous aujourd'hui, Fanny?
Je vais très bien, merci beaucoup. Vous allez bien aussi, même?
Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Fanny.
De même.
C'est quoi l'événement de Saint-Boniface célèbre?
Saint-Boniface célèbre, c'est une série d'événements qu'on organise à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment un moment clé pour nous pour accentuer davantage la francophonie. Donc, que ce soit en termes d'activités qu'on propose, d'artistes qu'on propose, on s'assure vraiment à ce qu'on soit pour le coup vraiment dans le thème. C'est un événement communautaire qui va impliquer donc d'autres organismes francophones tout aussi enthousiastes que nous d'offrir du divertissement francophone durant l'été et donc célébrant la francophonie dans sa globalité. On a les Jeudis de la francophonie qui se passent pour d'autres organismes, Cinéma sous les étoiles qui est à la cathédrale, le marché d'été de Saint-Boniface sur l'Esplanade. Et en ce qui nous concerne, nous, nos points forts, c'est vraiment les spectacles d'artistes francophones qui délivrent donc des prestations francophones. Et désolé, il y a beaucoup de mots francophones, mais on est dans Saint-Boniface célèbre.
Oui,
donc c'est vraiment l'essence même en fait, de cette série d'événements. Et pour te dire à quel point c'est quelque chose de gros chez nous, c'est qu'on a un site dédié pour Saint-Boniface célèbre qui est à saintbonifacecelebre.com dans lequel on va mettre à jour tous nos événements, mais également le passeo340.com qui regroupe et nos visuels très mignons pour cette série-là et toutes les informations nécessaires.
Y a-t-il des éléments uniques ou spéciaux qui différencient l'événement de Saint-Boniface célèbre de cette année des années précédentes?
Oui, c'est en termes de programmation. On s'assure à ce qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes choses. On va s'assurer que ce soit toujours renouvelé et que ce soit toujours rafraîchi et que le public soit plus diversifié également. C'est-à-dire qu'en termes de programmation, on s'assure à ce que et les adultes et les enfants puissent profiter de l'ambiance en fait, de Saint-Boniface célèbre. Et pour ça, en fait, par exemple, dans nos artistes, nous avons Guy Abraham, les Louise et Marie-Jo. Marie-Jo qui est spécialement très habilitée avec le public plus jeune. Oui. C'est ça. Et en termes de programmation, donc on a de la musique, mais on a également des activités qui font qu'on offre toujours une diversité et que cette diversité-là, on s'assure de la renouveler chaque année.
Et ma dernière question pour vous, Fanny. De quelle manière l'événement de Saint-Boniface célèbre a-t-il rapproché la communauté?
Le fait que le public ait confiance et ça, en ce CFM et qu'il puisse lui aussi réaliser que enfin, tout l'effort qu'il y a aux nouveautés qu'on propose, c'est-à-dire que en termes de partenaires et donc de performances et de spectacles, toujours s'attendre à ce que ça change.
Oui.
Donc il y a ce côté que leur attente dans le divertissement est entre nos mains, mais également que quand vous parlez par exemple de rapprochement des gens, on va également chercher des gens au-delà de la francophonie. C'est-à-dire qu'en mettant en valeur la francophonie et en faisant sa promotion, on va également atteindre d'autres gens.
Oui.
Et je pense que c'est ça qui va être très rassembleur. Notamment à travers nos partenariats avec le Winnipeg Jazz Orchestra, on va évidemment toucher la communauté anglophone et la rendre de plus en plus à l'aise dans nos espaces, et que ce soit en termes de francophonie et avec la communauté même des francophones. Mais c'est surtout s'assurer que le patio et le CCFM en général soient un lieu inclusif, un lieu sécuritaire, un lieu de divertissement et un lieu surtout qui plaira à tout public. C'est ça, si on peut parler de rassemblement et en un seul point. Ça doit être le carrefour et la culture, mais surtout la culture francophone, qui ne peut que s'étendre sur d'autres horizons.
Alors, encore une fois, merci infiniment, Fanny, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de cet événement.
Je vous remercie, Iman. Bonne journée à toi, Iman. Au revoir.
Bonjour, ici Judy Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Parlant de festival, celui de Tadoussac au Québec vient de se conclure. Tadoussac, c'est sur la basse côte nord, à quelques 15 minutes de traversier de la région de Charlevoix, où les baleines sont reines, mais pas seulement là, évidemment. Le festival de la chanson de Tadoussac, dont la 39e édition, s'est conclu le 18 juin, après 4 jours de spectacle. Parmi les têtes d'affiche, les Sœurs Boulay, Chloé Sainte-Marie, Katia Rock, Luc de la Rochelière et les Vulgaires Machins, donc des vieux routiers et routières. C'était aussi le dernier tour de piste du directeur du festival, Julien Pinardon, qui cédera maintenant sa place à Myriam Sénéchal pour le 40e de juin 2024. Maxime Jaudoin, qui est en poste aux Escoumins, revient sur cette 39e édition et sur les célébrations du 40e à venir avec Julien Pinardon et Myriam Sénéchal.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Julien Pinardon, présentement, est-ce que la pression est retombée depuis la conclusion de l'édition?
Ben oui, la pression est retombée, la poussière même est retombée, parce que là, on est déjà dans le démontage en ce moment. On ramasse, on démonte, c'est ça, fait que on s'est reposé un tout petit peu.
sans faire un bilan comme tel, parce qu'il est encore un peu tôt là, pour les chiffres, mais qu'est-ce que tu retiens de la 39e édition précisément?
Très belle réussite pour cette 39e édition. Donc, on est très, très contents de la fin de semaine. Donc, le public, les artistes, tout le monde, je pense, est ressorti, est reparti Tadoussac avec le sourire aux lèvres et le sourire jusqu'aux oreilles. Je pense que la fin de semaine s'est vraiment bien passée, même avec tous les aléas qu'on a connus au niveau de la météo, qui nous ont compliqué un petit peu la vie, particulièrement le samedi puis dimanche, où il a fallu utiliser tous nos plans B qu'on avait travaillé d'avance. Ça a compliqué un peu l'exercice, et puis surtout ça a impacté les ventes de cette journée-là particulièrement. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu moins qu'on aurait espéré, mais bon, c'est les aléas des festivals.
La programmation aussi était assez variée, sans tous les nommer, mais on avait les Sœurs Boulay, Chloé Sainte-Marie, Katia Rock, Luc de la Rochelière, également Vulgaire Machin, mais aussi les gens sur place, on sentait un peu une intimité avec les artistes, notamment dans l'église, mais aussi on avait deux scènes Hydro-Québec dans le même endroit, donc les groupes étaient un peu là, des amis de party avec le public.
Oui, vraiment, là, c'est ça que c'est tout petit, mais c'est vrai que nos scènes sont très très proches aussi l'une de l'autre, mais elles ont toutes leurs particularités, leur style un petit peu, donc dans l'église, c'était vraiment une scène plus d'écoute où on pouvait retrouver de la chanson à texte avec Chloé Sainte-Marie ou le voyage musical avec Elliot Maginot, mais c'est ça juste de l'autre bord à 50 mètres ou 100 mètres juste, on avait les fins de soirée très beaucoup plus festives avec Valère, les Shirley, Winston Band, donc une belle variété au niveau de la programmation.
Julien, donc là maintenant, l'édition est terminée. Alors toi, de ton côté, tu cèdes ton siège pour la prochaine édition. Est-ce qu'on part avec le sentiment de fierté et de mission réussite de ton côté?
Oui, avec beaucoup de fierté, oui, d'avoir été directeur, mais surtout d'avoir fait partie de l'équipe, parce que j'ai jamais vraiment pris mon rôle de directeur comme quelque chose d'élitiste. Je trouve que c'est vraiment une belle équipe ici à Tadoussac, où tout le monde met la main à la roue pour faire ça, pour réaliser, faire bouger des montagnes, parce qu'on fait beaucoup de choses avec peu de moyens. Puis on a chaque année, on réalise à chaque fois pendant le festival. Mais ouais, beaucoup de fierté, puis je suis très, très confiant pour la suite du festival, surtout à l'aube du 40e avec Myriam qui est rentrée dans l'équipe, puis toute l'équipe qui reste en place aussi. C'est ça, j'ai juste hâte à l'année prochaine pour venir profiter du festival.
Myriam, de ton côté, tu prends la relève de Julien pour l'an prochain au poste de directrice générale. Est-ce que ça a été une longue réflexion pour toi avant de dire oui, j'embarque?
Ben, pas vraiment, en fait. Quand j'ai décidé de postuler, on dirait que c'est tout a fait du sens. C'est vraiment ce que je voulais. Ça fait longtemps que je viens à Tadoussac, des parties de mon année. Puis là, j'étais en réflexion justement cet hiver à comment faire pour m'installer à l'année. Je trouvais que ce poste-là était parfait. Donc, tout s'est décidé. J'ai pas beaucoup réfléchi, en fait. C'est clair.
L'an prochain, ce sera la 40e édition du festival. On le sait, normalement, 40 ans, ça rime avec grande célébration. Pour vous, est-ce que vous avez déjà quelques idées en tête pour marquer le tout?
C'est sûr qu'on n'a pas encore défini notre plan. Là. Je rentre en poste doucement, je viens quitte, donc on va se mettre un peu là-dedans d'ici les prochaines semaines, mais c'est certain qu'on va souligner l'anniversaire du festival. Donc oui, quelque chose de peut-être plus gros, des surprises, refaire un peu peut-être une revue du passé. On veut souligner l'historique du festival, puis mettre de l'avant là, ce qui s'est fait l'équipe aussi à travers des années. Donc il y aura certainement des surprises.
Je veux revenir un petit peu sur l'aide financière de 75 000 $ que vous avez reçue au cours des derniers jours. À quel point, justement, cette aide-là est arrivée, disons-le, dans le bon moment, surtout avec le 40e anniversaire du festival qui s'en vient l'an prochain?
C'est sûr que c'est une bonne nouvelle parce que bon, tu sais, tous les coûts de production d'un festival ont vraiment explosé ces dernières années. Fait que, d'une manière générale, c'est une très, très bonne nouvelle. On attend encore, on espère d'autres bonnes nouvelles. Le festival est fini, mais on n'a pas encore toutes les réponses des subventions qu'on a demandées. Donc, on croise les doigts encore de ce côté-là. Mais c'est sûr que ça va donner un petit peu d'air, particulièrement cette année, ça, avec l'inflation. Puis surtout de la prévisibilité, parce que c'est une entente de 3 ans qui a été signée avec le ministère du Tourisme. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour prévoir le 40e. C'est au moins, on sait sur quelle base l'équipe va pouvoir s'appuyer.
Et l'autre nouvelle positive, c'est que même si l'édition actuelle est terminée, eh bien, c'est pas terminé globalement parce qu'on a les soirées d'été au jardin qui se poursuivent et qui vont commencer le 28 juin avec In Beauty. Donc, l'été se poursuit en musique, là.
Oui, tout à fait. On était au festival justement pour suivre les festivités tout l'été. Donc, on a vraiment une belle programmation super diversifiée cet été qui s'étalera jusqu'au début septembre, si je me trompe pas. Donc, on a de la musique, évidemment, on a de l'humour, de la danse. Ça devrait être des belles soirées en extérieur, si la météo le permet, sinon au sol de l'église, qui vont pouvoir continuer les festivités.
Alors, Julien Pinardon, bonne continuité dans tes futurs projets. Et Myriam Sénéchal, nouvelle directrice générale dès maintenant, en vue de l'édition du 40e l'an prochain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI.
Le 24 juin, c'est bien la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste au Québec, mais pas seulement là. D'autres provinces la soulignent aussi. C'est d'ailleurs le cas à Hawkesbury, en Ontario. L'Association canadienne-française de l'Ontario de Prescott et Russell, avec l'aide du Centre culturel Le Chenail, a préparé une grande fête le 23 juin. Notre journaliste Rose Grisla nous apprend que le groupe de musique franco-ontarien Haricot se produira sur scène et présentera son dernier album, Portrait de famille. Et on ne parlera pas de la fête de la Saint-Jean à Falaire, en Alberta, mais du miel sous toutes ses coutures. Falaire, qui est au cœur du Festival du miel, nous rapporte Imelda Wafak en poste à Rivière-la-Paix, les festivités qui ont été officiellement lancées le 23 juin, plus sur ces deux événements en consultant le site de canada-info.ca. Puis on prend maintenant la direction de la capitale fédérale pour retrouver notre journaliste otavienne, Marie Illès, qui a, pour la fête des pères, tendu son micro à 4 papas pour nous offrir leur témoignage sur la paternité, savoir comment ils la vivent, comment cela les a transformés. Les pères qui, selon Yannick Mailloux, un psychologue de la région de Gatineau au Québec, remplissent 5 fonctions, la protection, l'éducation, l'initiation, la séparation et la filiation.
Je suis juste content d'être un papa, puis d'avoir comme une awesome femme, puis des enfants vraiment cool. C'est tout.
Le 18 juin, c'est la fête des pères au Canada. À cette occasion, j'ai discuté avec 4 papas. Édouard, Éric, Marc-Antoine et Nicolas. Édouard Marave a 33 ans. Il est papa de deux filles. L'une d'entre elles a 3 ans et demi et l'autre a 2 ans.
Je trouve que ça donne un sens à ma vie un peu. Dans le sens que j'ai hâte de les revoir après la journée de garderie, de savoir ce qu'ils ont fait. Puis tu sais, je sais pas, ça m'amène juste une certaine sérénité de les avoir dans mes bras ou tu sais, comme quand on s'assoit tous sur le sofa puis qu'on regarde la télé. C'est quelque chose de difficile à expliquer.
Quel genre de papa es-tu, toi, au quotidien?
Probablement plus un papa de show. C'est comme j'aime. T'sais, on va au parc, puis je les laisse grimper. Beaucoup de parents diraient comme, oh non, t'sais, ils sont trop jeunes pour grimper, ils vont tomber. Mais moi, je les laisse. J'aime ça les regarder grimper, puis ils sont tellement fiers quand ils réussissent à grimper les structures ou à sauter en bas de la glissade. T'sais, ils me regardent, ils sont juste tellement fiers, puis moi aussi, je suis fier d'eux autres.
Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre entre le travail à la maison, de la maman et du papa? Comment ça se passe chez vous, l'organisation?
Je vais être super honnête, ma femme en fait définitivement plus que moi. Je sais pas comment qu'elle fait, parce que on a toute une nuit où est-ce qu'on n'a pas dormi, puis on est super fatigué. Elle roule, je sais pas sur quoi qu'elle roule, qu'est-ce qu'elle met dans son café, mais elle a toujours de l'énergie pour dire go. Comme j'ai expliqué plus tôt, je suis plus chill. Là, le déjeuner, moi, je vais sortir des céréales ou une toast, mais elle la coupe des fruits, puis elle fait sûr que tout est équilibré, elle met des graines de chia dans les céréales avec des fruits coupés, un yogourt sur le côté. Fait que c'est... Je sais pas comment qu'elle fait.
Éric Barrette a 33 ans. Il n'a pas toujours voulu être papa, mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Il est papa d'une petite fille de 2 ans.
Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un amour inconditionnel. C'est difficile de concevoir ça avant d'avoir un enfant pour le vrai. Évidemment, ça fait juste 2 ans que j'ai. Ça peut peut-être changer avec le temps, là. Mais je pense pas, honnêtement, c'est vraiment un amour inconditionnel qu'on développe, je pense, même dans les premiers mois de la grossesse jusqu'à la naissance et par la suite aussi.
Toi, comment tu t'es préparé quand t'as su? Qu'est-ce que tu as fait?
Évidemment, j'ai été à ses côtés tout le long de la grossesse. Mais pour bien se préparer, t'as beau suivre les cours, t'as beau lire, faire de la recherche pour savoir comment ça va se passer les 2 premières années ou les 10 premières années de la vie d'un enfant, mais c'est beaucoup du cas par cas, puis je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de plonger les deux mains dedans, puis vraiment le vivre au quotidien. Évidemment, ça nous permet, en vivant au quotidien, de développer des techniques là, pour être un bon père, évidemment être présent, mais aussi des techniques pour s'assurer que du bien-être de l'enfant.
Selon toi, qu'est-ce qu'un papa pour une fille? Que représente un père pour une fille?
Oh, grosse question. Moi, essentiellement, ce que je veux représenter, du moins, pour ma fille, c'est d'être un modèle, puis d'être présent avec elle tout au long de sa vie. Donc, je pense que tout bon parent se doit d'essayer d'être un modèle parfait pour ses enfants, puis c'est un peu l'objectif que je me donne en tant que père.
Qu'est-ce que toi, ça t'a donné, le fait d'être père?
Ben, je pense que ça m'a ouvert une nouvelle perspective. Tu sais, avant, j'avais beaucoup tendance à avoir le FOMO, comme on dit, là, de fear of missing out, de manquer des événements, des activités, et ainsi de suite. Je pense que ça a peut-être plus ralenti mon style de vie pour me conscientiser davantage sur mon environnement, sur ma famille, et de moins toujours me dire « Ah, j'aurais pu être à tel endroit, j'aurais pu être à tel endroit ». Je pense que ça, c'était le changement principal, peut-être mon approche de la vie, depuis que je suis père, qui a changé.
Marc-Antoine Joly a 31 ans. Il est papa d'un petit garçon de 10 mois. Que représente pour toi d'être papa?
La fragilité pour moi. Je pense que ça nous permet d'être vulnérables puis de voir à quel point mon enfant a besoin de moi pour survivre, pour tout, évidemment. Mais pour moi, c'est un cadeau, évidemment, comme tout père va dire. Mais c'est vraiment justement d'être vulnérable par rapport à tout ça puis de pouvoir se laisser emporter dans les émotions puis dans ce que ton enfant peut t'amener vraiment, tu sais.
Qu'est-ce que t'as envie d'être, toi, pour ton fils?
Moi, j'ai envie qu'il soit capable de venir me voir puis me poser n'importe quelle question, d'avoir une ouverture, d'être un modèle pour lui et puis d'y montrer que je suis pas Superman, tu sais, je suis pas un super-héros, que moi aussi, je fais des erreurs, que moi aussi, j'apprends à être papa. Puis que j'ai pas la réponse à tout. et puis que lui va apprendre à être un enfant, il va apprendre à être un humain. Fait que je pense que c'est juste d'avoir une bonne communication, puis de pouvoir me rendre au bout des choses avec lui, puis de lui dire, tu sais, comme de l'accompagner dans ses rêves, dans ses trucs, puis de pouvoir le guider au meilleur de mes capacités, puis en lui exprimant que je suis pas la seule personne qui peut l'aider aussi, puis qu'il y a plein de ressources, puis qu'on est capable de faire des bonnes recherches justement pour s'assurer qu'il soit comblé dans toutes les sphères de sa vie, tu sais. Fait que je pense que c'est juste d'avoir une belle ouverture d'esprit, puis de pouvoir parler de presque n'importe quoi, tu sais.
Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais quand t'as su que ta femme Céleste était enceinte? Ça va être ça, être papa?
Non, pas nécessairement au complet. Par contre, j'ai eu un père incroyable qui est un modèle pour moi. Donc, c'était facile pour moi, je pense, de vouloir essayer d'être un bon père parce que moi, j'ai eu et j'ai encore un appui de mes parents puis de mon père. J'ai une super belle relation. Pour moi, c'est un ami, mon père. Fait que j'aimerais juste avoir ça avec mon propre fils.
Nicolas Laplante a 40 ans. Il est papa d'un garçon de 6 ans et d'une petite fille de 11 mois.
J'ai un parent qui est relativement mélo, relax, puis... Les deux enfants, je leur laisse faire leurs dégâts, je leur laisse ramasser. Après, je leur montre comment ramasser après.
Ton fils a 6 ans. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce qu'il y a une petite anecdote qui te vient à l'esprit?
Oui, donc j'allais me demander, ben moi, je suis une personne d'une certaine dimension, corpulence, puis me demander pourquoi j'étais gros. Puis là, j'ai expliqué, c'est pas facile à avoir une discussion parce que c'est pas un choix, ça arrive, des situations qui arrivent, des choses qui arrivent, donc... J'explique que des fois dans la vie, il y a des gens de différentes grosseurs, dépendant de leur métabolisme, leur corps, choses comme ça. Donc, c'est une discussion à avoir, surtout à cause que veut pas lui aussi, tu fais un petit peu, il faisait appeler gros bedon à l'école, des choses comme ça. Donc, c'est un sujet assez délicat que je voulais discuter avec lui et que je lui demandais que tout le monde est différent. Donc, on a acheté certains livres, comme des livres d'Élie Gravel, des choses comme ça, pour lui montrer, lire des histoires à propos de ça. Puis l'éduquer que c'est correct, les gens sont différents, puis ça arrive.
Qu'est-ce qui t'a apporté le fait d'être papa?
Être papa, pour moi, c'est fantastique. Genre, tout l'amour que tu reçois à tes enfants, les blagues, les niaiseries, les sourires, les câlins, tout ça, ça rajoute juste plus d'amour dans ta vie. Il y a toujours des gens, des fois, qui disent qu'ils ont peur de ne pas avoir assez d'amour, mais c'est pas comme si ton amour est infini. Tu reçois plus d'amour, puis tu as plus d'amour à donner.
La première fête des pères non religieuse a été créée au début du 20e siècle aux États-Unis.
Et bien voilà qui complète cette 72e édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Marie Hillès, Maxime Jaudoin, Daniel Aucoin, Rose Grisla, Hubert Théberge, Imelda Wafak et Iman Elagi. Et à leurs invités, bien sûr, on n'oublie pas de faire un clin d'œil très affectueux aux musiciens qui nous offrent leur trame sonore tout au long de cette émission produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci à Stéphane Bénard, notre coordonnateur national, et à vous et à votre radio de nous tenir compagnie. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci encore. À la semaine prochaine.
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.